Écouter un écrivain.
Entendre son œuvre.
Des entretiens.
Des lectures.
Un été d'écrivain, c'est tout l'été sur France Culture entre 20h et 21h.
Des auteurs français, des auteurs étrangers.
Jean-Philippe Toussaint.
Annie Ernaux.
Antonio Lobo Antunesch.
André Brink.
Jean Dormesson.
Olivier Rollin.
Et toute cette semaine, Virginie Bloch-Lenné s'entretient avec Lydie Salver.
Ce soir encore, Virginie Bloch-Lenné rencontre Lydie Salver. Ce soir, rumination, déclaration de guerre, invective.
Bonsoir Lydie Salver.
Bonsoir.
Vos romans sont des soliloques, des adresses au lecteur, au juge, au docteur, des incantations, des déclarations de guerre parfois, à Descartes dans la méthode Mila, aux huissiers dans la compagnie des spectres et dans quelques conseils utiles aux élèves huissiers. Les personnages sont de bons orateurs, on ne les interrompt pas, on les écoute, on les entend réclamer justice. Le lecteur ne sait pas si l'orateur est fou ou non. Il balance entre la peur de la folie de celui qui parle et la peur de l'identification, parce que le narrateur n'a pas complètement tort. Il dit vrai. Ces déclarations, ces ruminations, pourquoi vous les aimez?
Est-ce que je les aime ou est-ce que je ne peux pas faire autrement que de faire ce que je fais?
L'exergue de la méthode Mila, c'est une phrase de Beckett, « Ratio sinon sans crainte, le brouillard tiendra bon. »
Oui, oui, oui. C'était un coup de pied donné à la raison, au ratiocinement, si ça se dit. Le brouillard tiendra bon, le mystère restera, l'énigme restera. J'aime beaucoup cette phrase, j'aime beaucoup, beaucoup cette phrase. C'est un peu le résumé en quelques mots de la méthode Mila. Il y a la raison qui calcule, qui pèse, qui essaie de tout comprendre, etc. Reste le mystère que Mila essaie de comprendre parce qu'elle appelle le duende. Le duende qui est intraduisible, hein, c'est un terme utilisé par Lorca beaucoup, c'est-à-dire une connaissance qui passe par autre chose que par la raison, une connaissance qui passe par autre chose que par l'explication et l'élucidation, qui passe par la poétique, par exemple, et ça me plaît beaucoup.
Vous voulez bien, Lydie Salver, lire le début de la déclaration pour que les auditeurs parce que c'est entendent
oui.
Voilà, votre rythme
oui, oui.
Et puis l'agressivité aussi.
Donc je précise
c'est
que c'est le mon premier roman.
Oui.
Tu es bonne. Tu as une âme, elle est grosse, mais ton odeur m'incommode, particulièrement celle qui monte de ton estomac le matin et qui est sans doute liée à l'action corrosive du tabac sur la paroi gastrique et, lorsque tu te tournes vers moi pour obtenir ton petit baiser du réveil, j'éprouve l'insurmontable dégoût. Mon Dieu, j'ai écrit ça. Mais à l'époque, j'avais cette idée que ce à quoi il fallait résister, c'était le lyrisme. Et comme à peu près tous les écrivains de ma génération, les premiers coups portés au lyrisme sont ceux de Flaubert, hein, qui dit qu'il déteste le mensonge de l'amour, les grands envols lyriques, les trémolos dans la voix devant le soleil couchant, etc. Coup porté ensuite par Bataille plus violemment, puisqu'il dit après la Shoah, il est plus question d'avoir la voix qui tremble en parlant du bon fond de l'homme et des grands sentiments. C'est plus possible. Et Beckett qui dit, je crois que je l'ai cité auprès de vous, qui dit « Pas de lune dans ma nuit, et si je mets des étoiles, je cite de mémoire, c'est par mégarde, la lune et les étoiles, comme les symboles de pacotille de ce lyrisme à dessous. » Donc, quand j'écris la déclaration « Impossible d'écrire un roman d'amour », on ne peut en écrire que l'envers, la défaite, la destruction, l'énamoration, comme disait Pascal, qui écrivait Énamoration, H-A-I-N-A-M-O-E, etc. Je suis un peu revenu sur la question du lyrisme, et j'ai le sentiment qu'il peut-être exister aujourd'hui un lyrisme qui ne soit pas mièvre, qui ne soit pas dégoûtant, qui ne soit pas ignorance du monde et ni narcissisme exacerbé. Un lyrisme en tout cas qui peut être très efficace contre l'indifférence, qui peut être comme une protestation le cynisme aussi. Donc, je suis moins radical que je ne l'étais au moment où j'écrivais la déclaration et où j'avais l'impression que le comble du lyrisme, c'était le roman d'amour.
Lequel, Lydie Salvert?
Mais justement, le seul roman d'amour que je lisais à l'époque, c'était Premier amour de Beckett. Voilà. On ne s'illusionne pas sur les vertus de l'amour, sur les pouvoirs de l'amour, etc. Mais je crois que toute ma génération a été un peu dans cette posture devant de défense face au lyrisme. Bien sûr, il y avait des écrivains qui continuaient dans la veine lyrique, mais c'est pour ça que c'est intéressant de dire que je l'ai écrit en
1990. Vous n'étiez pas une lectrice de poésie, Lydie Salvert, alors?
Moins que de romans, je l'avoue. Oui, moins que de romans.
Vous êtes d'accord avec le mot agressivité, en particulier dans ce début là de la déclaration,
c'est oh là là, oui, je sais pas si j'écrirais un début pareil, quoique le début de Pas pleurer n'est pas mal non plus, dans le genre violent. C'est violent, c'est agressif. Pour qui? Pour le lecteur?
Pour celle à laquelle s'adresse ce narrateur? C'est sa femme.
Oui, c'est
terrible. Et pour le lecteur.
Oui, c'est terriblement violent, oui. Terriblement. Mais très paradoxalement, sans doute, les romans qui disent la violence, moi, loin de me faire peur, me rassurent. Puisqu'il dénonce ce qu'on perçoit tout le temps, sans pouvoir y mettre de mots. Et lorsque je lis la violence chez Gade contre Mussolini, par exemple, elle a un effet non pas d'écrasement et d'agressivité, mais libérateur. Ça me libère. Et pour Dieu sait s'il dit des horreurs, d'une violence, mais outrée. Faulkner, quand il dit la violence de l'Amérique, raciste, etc., il produit en moi non pas un effet destructeur, mais vraiment un effet libérateur. Donc j'ai toujours l'espoir que ce que j'écris de violent le sera pour l'autre, évidemment. Mais j'ai envie de tout, sauf de faire peur à l'autre, encore que, peut-être. J'en ai pas conscience, en tout cas.
Faulkner, Lydie Salvaire, c'est aussi un écrivain du ouais. corps, enfin, de, oui. des éléments de la oui. nature,
oui. Oui.
Contre l'homme.
Oui, 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 c'est vrai, oui.
Tout ça se heurte,
oui.
ce coup.
Oui.
Souvent, vos personnages, Lydie Salvaire, réclament justice. Et quand ils disent « Oui, monsieur le juge, on n'est pas loin de... » Enfin, il ne courbe pas les chines. Et... Le juge, c'est un...
Mais je vous ai dit au tout début de l'émission d'hier que toute la bibliothèque était... un cri de colère contre l'ordre moral, contre l'ordre social, contre l'ordre politique et contre l'ordre du langage, puisque je citais Virginia Woolf.
Mais il y a beaucoup d'huissiers. Enfin, il y a l'huissier de la Compagnie des Spectres. Et puis,
il y en a d'autres. Il y a le
quelques
juge.
Conseils utiles aux élèves.
Oui, qui au départ fait quasiment partie de la Compagnie des Spectres. En tout cas, je l'écris dans
texte
le.
Texte court. Ouais.
C'est ce qui se passe lorsque j'écris la Compagnie des Spectres est très intéressant parce que une fois le manuscrit terminé, je le donne à mon éditeur, Denis Roche. Et d'ordinaire, lorsque je livre un manuscrit, j'ai un sentiment de délivrance extraordinaire. J'en ai fini avec cette année où je n'ai pensé qu'à ça, etc. Et là, dans les jours qui suivent, mais rageusement, j'écris quelques conseils utiles aux élèves huissiers, comme pour prolonger encore un peu, le moment où je vais quitter Olympe, Rosemélie, etc.
Mais pourquoi les huissiers, il s'est passé quelque chose avec...
Non, non. Dans ma vie, dans ma vraie vie, je n'ai aucun souci avec les huissiers. Comme des symboles, les huissiers ne sont pas les huissiers, ils sont juste les symboles du monde méchant. Il y a quelque chose de paranoïaque aussi hein, dans cette, ce sentiment qu'ont certains de mes personnages... d'avoir le monde contre eux et d'aller contre le monde.
Et les juges, Lydie Salvaire, vous avez un...
Non. J'ai une vie parfaitement légale et dans ma vraie vie, je n'ai aucun souci du côté de la justice.
Mais est-ce que c'est un métier qui vous pose problème?
Je déteste les juges. Et d'ailleurs, je déteste qu'on juge la littérature, qu'on la note, qu'on l'évalue. Oui, je déteste ça. Je trouve qu'elle mérite mieux.
L'insolence, Lydie Salvaire, c'est une forme d'écriture ou un ton que vous aimez. Et vous louez l'insolence de Colette.
Oui.
En particulier dans La naissance du jour.
Dans La naissance du jour. Que je lis adolescente, et ce début de La naissance du jour, où Sido, non c'est une lettre, La naissance du jour commence par une lettre que le mari de Colette envoie à Sido pour l'inviter à un anniversaire, et elle lui répond qu'elle n'ira pas à l'anniversaire de sa fille parce que la fleur d'un cactus doit s'ouvrir dans les jours qui viennent. Et je trouvais que cette insolence par rapport au sacro-saint sentiment maternel, intouchable, sacré, cette mauvaise mère, donc, ça m'a plu infiniment lorsque j'étais adolescente. Oui, l'insolence, je l'aime. J'ai beaucoup de mal à dire que je le suis. Je trouve ça... C'est comme dire... Je suis révolutionnaire, je suis bon écrivain, je suis insolent. C'est impossible à dire, mais j'aime l'insolence. J'aime l'insolence de Baudelaire. J'adore, dans mon cœur mis à nu, je l'adore. J'adore toutes les insolences.
Les révérences, enfin...
Oui,
ce qui claque.
Oui, ce qui vient mettre à mal... L'ordre bourgeois, immobile, sûr de lui et content de lui.
mais vous écrivez aussi, Lydie Salvert, dans votre portrait de Colette, que son côté popote vous ennuie.
Quand je l'ai relu, donc pour cette femme, le projet de cette femme, c'était de parler des lectures qui avaient été bouleversantes pour moi. Donc j'ai cru bon de mettre Colette parce que, véritablement, lorsque j'étais adolescente, elle m'a bouleversée. Mais c'est vrai que son éloge de la courgette et de l'ail et toutes ces choses m'a semblé très lourde. Que j'ai trouvé ces coquetteries de style que je n'ai plus en mémoire, mais ces palpitations dans le ciel, etc., que je les ai trouvées un peu surannées. Bref... je l'ai lu avec moins de plaisir que je ne l'avais lu à 15 ans. Voilà. Mais elle a de l'insolence. Mais elle revendique son homosexualité, ce qui à l'époque a fait bouger pas mal les choses. Alors, c'est difficile de dire que Colette est féministe, parce que en même temps qu'elle affirme l'autonomie des femmes, elle les décrit souvent comme des chiennes. Devant leurs amants, etc. Elle a un rapport un peu compliqué aux hommes, je trouve. Mais dans cette femme, une fois le livre terminé, je me disais qu'elle était l'intruse.
Parce qu'elle est plus classique que les autres ? Parce qu'elle est, elle, sa vie est moins dure que celle des autres ?
Mais sa vie est carrément confortable. Elle sait avec qui coucher. Pour avoir du pouvoir, elle sait qui épouser pour que sa carrière se développe.
Progresse.
Oui, elle a ce que les aucune des six autres femmes n'ont, qui n'avait aucun sens de ce qu'il fallait faire pour réussir, et qui ça n'est pas qu'elle n'avait aucun sens, c'est qu'elle ne s'en souciait pas du tout.
Aucun sens du confort.
Je ne sais pas, mais elle ne fait, aucune n'a fait des six femmes le minimum pour être éditée. Par exemple, Tsvetaeva, elle dit qu'elle écrit aux uns aux autres, mais les gestes qu'elle devrait faire en Russie, c'est-à-dire déclarer son obédience par rapport au réalisme socialiste, elle s'y refuse. Écrire à Staline, elle s'y refuse. Elle est dans le refus de toute compromission qui pourrait l'aider sur le plan éditorial. Alors que Colette, c'est peut-être pour ça que je dis qu'elle est l'intruse, ce qui n'enlève en rien son talent du reste, mais c'est quelqu'un qui sait faire ce qu'il faut pour parvenir à ses fins.
Votre préférée parmi ces sept femmes, Lydie Salvert, c'est Tsvetaeva.
C'est impossible à dire, je crois. J'aime beaucoup Ingeborg Bachmann. Oh, je les aime toutes, je crois. Très différemment. Sylvia Plath, qui dit qu'elle se sert des mots comme de hache. Ça me plaît bien, ça. Et qui avait une espèce d'humour grinçant au plus profond du désespoir. C'est extraordinaire. Non, je les aime toutes.
Vous trouvez, vous, que vous avez un humour grinçant ?
Mais dans la vie, je n'en ai aucun.
Aucun humour ?
Dans la vie.
Dans la vie, vous n'êtes pas en colère.
Mais c'est vrai.
Ouais.
Mais c'est vrai. Quand j'écris, j'aime rire. Mais j'aime que la littérature soit rieuse, vraiment. J'aime que la littérature se moque d'elle-même. J'ai horreur de la littérature conçue comme une chose grave, solennelle, intimidante, qui demande le chuchotement et toutes ces choses. Non, j'aime. Et d'ailleurs, tous les grands écrivains que j'aime, Le Quichotte, par exemple, Bernard, sont des comiques. Ce sont de grands comiques. Enfin, grands comiques, j'en sais rien. Mais ils n'ont aucun mépris pour le rire, qui était considéré comme une forme du diable. Hein, au Moyen-Âge, le rire en littérature, c'était très mal.
Le personnage de votre mère, dans Pas pleurer, fait beaucoup de déclarations sur la vie comme elle va. Et, c'est un personnage qui, en se rappelant l'été 36, dit aimer la vie.
Oui.
Avec de très belles formules, quoi,
oui.
Qui viennent de vous ou d'elle, je ne sais pas. J'avais l'impression que ma vie devenait vraiment véridique, dit.
Oui.
Comme ça.
Elle a l'air.
J'avais l'impression que la vie devenait véridique. Ouais.
Oui.
Et puis elle a aussi vous parlez d'un été de jeunesse totale.
Oui.
Qu'est-ce que c'est ce sentiment-là? Vous l'avez éprouvé à 15 ans, 16 ans, Lydie Salver?
C'est vraiment cet accord miraculeux entre soi et le monde. C'est le bonheur que le sentiment que son bonheur personnel est un bonheur partagé. Je suis pas sûre que ça me soit arrivé. Le sentiment de vivre tout avec une intensité folle. Tout. Le fait de boire un verre d'eau fraîche, puisqu'elle découvre la présence d'un réfrigérateur. Le fait d'allumer un bouton pour obtenir l'électricité. Tout lui semble miraculeux. Tout est vécu intensément. Inclut la richesse que son frère Joseph regarde avec un grand mépris, puisque aimer la richesse, c'est être contre-révolutionnaire.
Et vous n'êtes pas sûr que ça vous soit arrivé, parce qu'à 15 ans, 16 ans, vous n'aviez pas cette légèreté qu'a le personnage de...
Mais j'ai pas vécu, l'équivalent, nous n'avons pas vécu l'équivalent d'une insurrection libertaire en France.
Parce que pour éprouver ça, il faut de la politique aussi.
Mais ce qui est miraculeux chez elle, c'est que le bonheur personnel est redoublé du bonheur collectif. C'est ça qui est inouï dans les révolutions et qui n'arrive que très rarement. Sinon, vous avez votre petit bonheur personnel, individuel, que vous ne partagez avec personne. Ça, je l'ai connu mille fois. Mais ces moments où votre joie est la joie d'un peuple, j'imagine que ça doit être absolument quelque chose d'inoubliable. Et d'ailleurs, tous les débuts de révolution sont décrits comme des bonheurs inoubliables. C'est ce que vit ma mère. C'est ce qu'elle a eu la chance de vivre. Elle ne s'en est pas remise, je crois.
Elle s'en est pas remise parce que...
Elle n'a jamais retrouvé... ce soleil, ce feu, cette joie collective qu'elle a vécue dans les années 36. Au point que je suppose que tout le reste lui a paru fade, inclus sa vie avec nous.
Ça, c'est ce que vous écrivez dans Pas pleurer, mais je ne sais pas si c'est vrai ou pas, Lydie Salver.
Je le pense. Je pense qu'elle a trouvé la vie après. Beaucoup plus fade et plate que ne l'avait été sa vie avant. Mais elle avait un tel goût de vivre, un tel appétit de vivre que, bien qu'elle continuait à rire, à cuisiner, à nous aimer, à nous parler, etc.
Vous n'avez pas d'enfant, dit Salver.
Non.
Et c'était une décision?
Est-ce que c'est une décision? C'est compliqué, ces choses. Je suis restée la fille de ma mère. Ce qui n'est pas simple. J'ai voulu sans doute rester la fille de ma mère. Et vivre après elle a été plus que difficile.
Même quand elle était vivante.
Ah non, après,
non,
je dirais,
après sa mort.
Après sa mort.
C'était une femme qui avait une très forte personnalité.
Je trouve, oui. Mmh. Mais je dis ça, mais c'est peut-être beaucoup plus compliqué que ça. Je ne sais pas. Est-ce que j'aurais pu écrire si j'avais eu des enfants? J'en sais rien. Bref, ça ne s'est pas fait.
chez ces sept femmes dont vous faites le portrait, vous dites aimer que la vie et l'œuvre aillent ensemble. Partager la vie d'un écrivain, enfin, c'est comment, enfin, que, voilà, vous pensez que c'est compliqué? Parce qu'un écrivain observe beaucoup et... prend aussi, en regardant, en observant. Mmh. Il donne sûrement, mais...
Moi, j'ai l'impression que je suis facile à vivre. je suis désolée. J'ai l'impression que je suis plus facile à vivre. S'il entend ça, il va être très fâché, que Bernard Wallet, avec qui je partage la vie. je me vante, c'est affreux. Qu'est-ce qui serait difficile?
La façon, je ne sais pas, dont un écrivain observe les autres pour en garder...
Mais en quoi ce serait une menace?
Pas une menace,
parce
mais...
Parce que je n'observe pas... ce qui apparaît, c'est que j'observe avec un laser très méchant, mais je ne suis pas à fouiller le monde en cherchant ces méchancetés, franchement.
Cherchant des personnalités, en cherchant les raisons pour lesquelles... En cherchant à nourrir les romans, je ne sais pas. Non pas en cherchant les méchancetés, mais en cherchant l'inspiration tout le temps. Est-ce que...
Je n'ai pas ce sentiment que je la cherche. J'ai pas du tout, même du tout, le sentiment que je la cherche. Si je vais au café et que près de l'endroit où je suis assise, j'entends une conversation qui attire mon attention, évidemment. Mais comme vous, je pense, non. Non, je suis, mais je mens, parce que quand je suis immergée dans un roman, c'est vrai que tout y converge. Mais c'est des périodes, là, tout y converge. Tout. C'est-à-dire que une conversation au café, une rencontre dans l'allée, quelque chose dit à la télévision, une phrase lue, peuvent éventuellement converger vers le livre. Oui, ça c'est vrai. Mais je ne crois pas que cela soit ressenti par mes proches comme une menace, mais ce qui s'appelle pas du tout. Et par l'équipe avec laquelle je travaillais, je n'avais pas du tout l'impression que je leur faisais peur. J'aurais aimé leur faire peur.
Merci beaucoup, Lydie Salvert,
merci
pour ces
vous.
Entretiens.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Fin de cette rencontre de Virginie Bloch-Lenné et de Lydie Salvert. À voix nue, attachée d'émission Claire Poinsignon, prise de son Étienne Leroy, réalisation Anne-Pascale Desvignes, coordination Sandrine Trainer. Cette émission s'écoute en ligne pendant une durée de 1000 jours et se podcast pendant un an sur franceculture.fr. Et dès lundi, une nouvelle rencontre.
France Culture, un été d'écrivain. France Culture, un été d'écrivain. Deuxième partie, le temps des lectures. Tout l'été, nous prolongeons les entretiens avec des écrivains par des lectures de leurs œuvres. Ce soir, et toute cette semaine, nous avons choisi de vous faire entendre 5 portraits parmi les 7 qui composent le livre de Lydie Salver, « 7 femmes ». Émilie Brontë, Virginia Woolf, Marina Tsvetaeva, Sylvia Plath et Ingeborg Bachmann sont les 5 figures que nous avons élues avec Lydie Salver pour ce feuilleton. Dans « 7 femmes », Lydie Salver dessine le portrait de grandes figures littéraires féminines du XXe siècle, des femmes dérangeantes, scandaleuses, des femmes pour lesquelles l'écriture est devenue l'existence même, des femmes et des œuvres qui ont marqué profondément Lydie Salver. Elle est en empathie avec ses écrivains et nous transmet leur fulgurance et leur vive douleur. Ces femmes d'un autre temps nous semblent terriblement contemporaines. Une réalisation d'Étienne Vallès.
Sept femmes de Lydie Salver. Cinquième et dernier épisode, Ingeborg Bachmann. Texte dit par Lydie Salver.
Ingeborg Bachmann. Ingeborg Bachmann, née le 25 juin 1926 à Klagenfurt, capitale de la Carinthie située au sud de l'Autriche. Klagenfurt, où depuis toujours, écrit Thomas Bernhard, le nationalisme, le national-socialisme et la stupidité provinciale se sont épanouis dans la vulgarité. Son père, Matthias Bachmann, officier pendant la Première Guerre mondiale, adhère dès 1932 au Parti national-socialiste, alors interdit en Autriche, adhésion qu'Ingeborg Bachmann gardera secrète toute sa vie. Le 12 mars 1938, c'est l'Anschluss. L'Autriche est annexée au Reich et les troupes hitlériennes entrent dans Klagenfurt sans rencontrer la moindre opposition. Ingeborg, qui a 12 ans, dit avoir été transi d'une terreur mortelle devant ses défilés militaires, ses drapeaux déployés, ses chants triomphants et la monstrueuse brutalité de cette occupation qu'elle perçoit alors sans la comprendre. Son père, qui fait partie du noyau dur des nazis de Carinthie, s'engage volontairement dans la campagne de Pologne en septembre 1939. Il ne reviendra qu'à l'automne 45. Après la guerre, Ingeborg Bachmann part étudier la philosophie, d'abord à Innsbruck, puis à Graz et enfin à Vienne où elle arrive en 46. Un an après, elle rencontre les écrivains du groupe 47, qui se réunissent régulièrement au café Raimund pour réfléchir aux enjeux esthétiques et politiques de la littérature. Et tous sont impressionnés par sa présence. Où qu'elle soit, Ingeborg Bachmann est toujours et tout de suite le centre. C'est une chose qui ne s'explique pas. Elle a du style. Même son silence a du style. C'est une chose qui ne s'explique pas plus. Son visage est très beau, avec quelque chose de vulnérable qui attire. Elle fume nerveusement cigarette sur cigarette. On dirait qu'elle marche sur des lames de couteau. Elle est si réservée et si timide que lors de sa première lecture devant le groupe 47, sa voix est inaudible. Un des auteurs présents se propose alors de relire son poème à haute et distincte voix. Elle s'évanouit d'émotion. Détail qui suscite en moi, par identification, une immédiate sympathie. Thomas Bernhard dit d'elle qu'elle est un événement. Il l'admire. Dans Extinction, il l'appelle sa grande poétesse, sa grande artiste. Lui qui a toujours fui les écrivains, lui qui ne voit en eux que des petits bourgeois méchants, médiocres et fourvoyés dans la folie des grandeurs. Lui qui ne s'est jamais assis à leur table, car s'asseoir à la table d'un écrivain, c'est pour lui la chose la plus répugnante qui se puisse imaginer. Il dit d'elle qu'elle est la grande, l'unique, celle qui restera, celle dont nous n'aurons pas honte dans 100 ans. Elle ne recule devant rien dans ses pensées, dit-il encore. elle l'est à 100% dans ses poèmes, alors que dans les productions de ses consoeurs, des rivales qui intriguent continuellement contre elle, ce n'est jamais le cas. Comme Thomas Bernhard, elle déteste l'Autriche. Elle déteste son pays où l'horreur nazie a fait régner une nuit profonde, une nuit qui ne veut pas finir. Elle le qualifie de pays putréfié. Elle le fuit constamment. Elle habite tour à tour à Paris, Londres, Berlin, Francfort, Zurich, Naples et Rome où elle meurt en 73. Elle déménage 14 fois. Dans son univers romanesque, on retrouve toujours cette impossibilité d'un ancrage. Tout y est toujours incertain, délocalisé. En 1964, elle publie l'un de ses poèmes les plus célèbres, La Bohème est au bord de la mer, dans lequel elle invente le seul pays qu'elle considère comme sien, une bohème idéale, bordée par la mer, patrie des apatrides et refuge de tous ceux qui sont de nulle part. Elle dit qu'elle déteste la littérature lorsque la littérature n'est qu'une esthétique, un bibelot, une parure de cheminée. Elle veut que la littérature exerce une influence sur la réalité. Elle y croit. Elle veut y croire. Il y a en elle quelque chose de naïf. Elle a de la droiture, et ça me plaît. Au risque de mettre en péril ses projets éditoriaux, elle prend la décision irrévocable, au mois de mars 1967, de quitter sa maison d'édition, car elle vient d'apprendre que la poétesse russe Anna Akhmatova ne sera pas traduite par Paul Celan comme on le lui avait promis, mais par un poète qu'elle trouve exécrable. Elle se fout du fric. Elle ne remarque pas que la radio qui la demande avec insistance la paie fort mal et signe distraitement des contrats qui n'honorent pas ses employeurs. Toutes ces choses que l'on rapporte d'elle m'émeuvent infiniment et me la font aimer. En janvier 1948, elle rencontre à Vienne Paul Celan, poète encore inconnu, mais qui sera regardé quelques années plus tard comme l'un des poètes majeurs du XXe siècle. Il a 27 ans, elle en a 21. Leur lien, qui restera jusqu'à la fin nécessaire à leur vie, à leur œuvre, viendra buter sur 1000 impasses et 1000 incompréhensions. Mais ni leur fardeau de silence, ni les secrets ensevelis dans le fond de leur cœur, ni les questions imprononcées dont ils traquent les réponses sur la bouche de l'autre, ni le poids terrible dans leur vie des mécontes de l'histoire n'auront raison de leur obscur amour. Après le suicide de Celan en 1970, Ingeborg Bachmann écrira dans Malina « Ma vie est finie, car il s'est noyé dans le fleuve pendant l'évacuation. Il était ma vie, je l'ai aimé plus que ma vie. » Dès qu'elle fait sa connaissance, Ingeborg Bachmann perçoit chez Paul Celan un chagrin inconsolable, presque inhumain. « Je vois avec beaucoup d'anxiété, lui écrit-elle, quelques mois après leur rencontre, comme tu es entraîné vers le large, sur une mer immense, mais je vais me construire un bateau pour t'arracher à la perte et te ramener à bon port. » Elle perçoit d'autant mieux sa détresse qu'elle est elle-même un être déchiré. Fille d'un homme qui s'est résolument rangé du côté de Hitler, elle aime un poète juif qui a échappé au camp d'extermination où ses deux parents moururent. Comment vivre avec au cœur un tel dilemme? Comment vivre dans un monde où la loi interdisant aux juifs d'avoir des rapports sexuels avec des Aryens est encore dans toutes les mémoires? Comment côtoyer intimement un père qui a participé à la pire des monstruosités et un amant rescapé de la Shoah? Comment répondre en même temps aux besoins exigeants de vérité et à la nécessité intérieure de taire, par loyauté filiale, l'abject engagement paternel? Comment expliquer à son amant qu'on est la fille d'un meurtrier, mais que ce meurtrier est le seul homme au monde à ne pas vous avoir abandonné? Comment vivre avec une culpabilité insurmontable pour une faute que l'on n'a pas commise. Trop d'épreuves, trop de douleurs, trop de fantômes pèsent décidément sur l'amour que se vouent Paul Celan et Ingeborg Bachmann. Mais en dépit de tant d'impossibles, Ingeborg Bachmann et Paul Celan vont poursuivre pendant des années leur amitié précieuse par le biais de leurs lettres et des œuvres échangées, puis vont s'éloigner doucement, poussés dans des mers différentes, mais sans jamais se perdre. « Mon amour insatiable pour toi, écrit-elle, ne m'a jamais quitté, et je cherche à présent dans les ruines et les airs, dans le vent glacé et sous le soleil, les mots pour toi qui me jetteraient de nouveau dans tes bras. » Car mille choses les unissent et autant les éloignent. Ingeborg Bachmann aime l'amour, la poésie. Celan est adonné à la nuit, couché à l'ombre des morts. Elle veut croire que l'amour peut donner la lumière et que les pierres peuvent fleurir. Pour lui, l'amante la plus aimée demeure à tout jamais l'étrangère. Elle peut lui avouer « Tu es mon bonheur, que ne voudrais-je l'être pour toi ?» À Celan, le bonheur est interdit, puisque tout amour convoque en son cœur la douleur éprouvée pour Ruth, Myriam et Noémie, puisque tout le sens du monde s'est abîmé dans la Shoah, puisque cette horreur a séparé irrémédiablement les hommes, puisqu'elle les a, elle et lui, séparés. Ingeborg Bachmann se révolte contre cette séparation érigée en destin, contre le froid, contre la nuit, contre l'histoire qui est devenue leur tombe et contre la morale débile des victimes qui laisse peu à espérer. Mille impossibles les séparent, ai-je dit, mais l'un et l'autre ont en partage avec les écrivains du groupe 47 une même question. Dans quelle langue écrire depuis que leur langue natale a été corrompue par la catastrophe nazie? Depuis qu'elle est devenue une langue obscène, déshonorée, imprononçable, une langue de mort. Dans quelle langue écrire lorsqu'on cherche non pas à s'exonérer d'une histoire abjecte, mais à l'endosser avec son poids d'horreur, avec son poids de cadavre, pour en balbutier ce qui n'a pas encore trouvé de mots. Dans quelle langue écrire quand parler est devenu plus que jamais indispensable. Pas d'autre issue que de continuer à dire. Et si, pour certains, aucune consolation n'est à attendre après la rupture irréparable qu'a constituée la liquidation de tout un peuple, il reste néanmoins qu'une parole est possible. Une parole est possible. Une parole née du dedans même des cendres d'Auschwitz et du dedans même de ces ténèbres. Une parole pour que les morts ne soient plus seuls. Une parole pour se souvenir de la nuit et dire ce que l'Autriche honteusement bâillonne. Ingeborg Bachmann écrit donc des poèmes, des nouvelles et des pièces radiophoniques, insoucieuse des partitions selon les genres. Bientôt elle devient célèbre, sur une méprise, comme souvent. La critique croit voir dans ses deux premiers recueils de poèmes le renouveau d'une poésie possible après le désastre. On l'admire, on la fête, on lui décerne plusieurs prix. Elle fait même la couverture de Der Spiegel. On s'accorde à lui reconnaître une voix poétique à la fois singulière et reliée à la tradition lyrique. Elle vient incarner, pour cette génération d'après-guerre, une forme d'espoir, et ce d'autant mieux qu'elle laisse dans le flou la perception d'un réel contaminé par le nazisme.
Ce n'est que quelques années plus tard, lorsqu'elle publie Malina, qu'une campagne de presse incendiaire se déchaîne à son endroit. Elle n'est plus désormais la poétesse consolatrice de l'après-guerre et belle de surcroît, mais l'écrivain de la fracture, l'écrivain qui non seulement déroge aux critères formels et conceptuels du roman, mais qui a le mauvais goût de faire ressurgir dans une vision de cauchemar le passé effroyable. Déroutée par l'âpreté de la condamnation qu'Ingeborg Bachmann porte sur la violence patriarcale et les idéologies mortifères qui sévissent encore, dérangée par une prose sans délicatessène et qui vient arracher l'Autriche à ses derniers mensonges, la critique dominante se montre incapable d'entendre sa voix et la qualifie de poétesse déchue. Mais Bachmann n'en continue pas moins d'écrire dans la reconnaissance de ses pairs et le rejet violent de la scène littéraire qu'elle juge désormais aussi sale que le commerce des armes. Persuadée qu'il n'est pas de monde nouveau sans langage nouveau, Ingeborg Bachmann va tenter obstinément d'inventer une langue utopique, une langue qui ouvre son chemin à travers d'autres langues, une langue à la fois singulière et plurielle, et qui mêle aux mots de l'auteur les mots des autres, ceux de ses frères de papier, morts ou vivants, ceux de Shakespeare, de Musil, de Karl Kraus, de Bertolt Brecht, de Wittgenstein, d'Hermann Brock, de Rimbaud, de Büchner ou de Goethe. Mais ce sont surtout les mots de Celan qu'Ingeborg Bachmann s'approprie, des mots infiniment aimés, infiniment cités, repris en écho, en prière, en cri, en sanglots, en silence, des mots écrits sans guillemets parce que devenus siens, et qui vont secrètement tisser entre Celan et elle une longue, une poignante, une inlassable conversation murmurée, souterraine. Dans les leçons de Francfort qu'elle accepte de donner en 1959, Ingeborg Bachmann, d'une voix fragile et mal assurée, va tenter de formaliser ce qu'elle attend de la littérature. Elle la veut sans fioritures, loin de tout fabriquer et encore plus loin du cynisme et de la vanité, refusant comme une obscénité toute satisfaction esthétique devant, je la cite, « la fin, l'opprobre, les larmes et les ténèbres », se méfiant secrètement de la beauté, cherchant sans désarmer une compréhension des autres et du monde, se proposant d'user de la langue comme d'une arme et de combattre le langage infâme de la pub, du marché, de la politique politicienne, ce qu'elle appelle la langue des escrocs, afin d'en dévoiler ce qu'elle charrie d'idéologie morbide et d'assujettissement mental. Lucide, toutefois, sur les limites de son pouvoir, souvent désabusée, sinon désespérée, comparant les engouements et désengouements littéraires aux fluctuations de la bourse, mais refusant farouchement d'abdiquer et décidée à se battre sans fin contre les pulsions destructrices continuellement à l'œuvre dans le monde. Car ce qu'a compris très jeune Ingeborg Bachmann et qui l'a hanté pour le restant de ses jours, c'est que la guerre, une fois terminée, se continuer sous d'autres formes. Ce qu'elle a perçu très tôt, c'est que le nazisme gangrenait encore la société viennoise qui se taisait sur ses méfaits, que les bourreaux d'hier vidaient la coupe d'or en toute impunité, et que la prétendue reconstruction autrichienne n'était au fond rien d'autre que le maquillage des anciennes abjections, vêtues d'habits propres et coiffées de chapeaux tyroliens. Ce qu'elle a ressenti dans sa chair même, c'est que l'esprit national-socialiste sévissait toujours en Carinthie comme dans toute l'Autriche, que l'éducation dans les familles était toujours national-socialiste, les journaux toujours nationaux-socialistes et les fanfares toujours national-socialistes. Ce qu'elle a compris enfin, c'est que le fascisme des États se prolongeait insidieusement en un fascisme intime, un fascisme privé,
moins voyant, plus subtil, mais tout aussi mortel. C'est que chassé ici, il apparaissait là. Pis encore, qu'il pouvait s'insinuer jusque dans l'amour même. Dans les dernières années de sa vie, Ingeborg Bachmann va tenter d'œuvrer à son grand projet, Façon de mourir, dont le titre à lui seul indique qu'une ombre morbide pèse déjà sur ses épaules. Façon de mourir devait être composée de 3 romans, Malina, Franza et Requiem pour Fanny Goldman. Malina seule sera terminée et publiée en 1971. Requiem pour Fanny Goldman et Franza resteront inachevés et paraîtront après sa mort. Bien qu'inachevés, ou peut-être parce qu'inachevés, Franza est des 3 celui qui me pénètre le plus profondément dans le cœur. Ce livre raconte un crime, prévient Ingeborg Bachmann en avant-propos, un crime qui a pour nom amour. Ingeborg Bachmann y décrit l'un de ces assassinats légalisés par le mariage. L'un de ces meurtres ordinaires qui ne font pas couler le sang se perpètre dans des appartements feutrés et se drape d'une honorabilité toute bourgeoise. Franza, c'est Ingeborg Bachmann, c'est son savoir sur la domination que certains êtres exercent sur d'autres jusqu'à les anéantir et sa peine de constater qu'au cœur même de l'amour gît le crime. Vision affreusement pessimiste, vision désespérée, portée par une prose heurtée, haletante, sans larmes, une prose sans répit, sans ces pauses d'ironie où le cœur se desserre. Le cœur ici est de bout en bout fermé comme le poing. Une prose qui rend le son brutal des choses qu'on détruit ou le choc de galets qui se cognent, avec un arrière-fond comme un bruit étouffé de sanglots. J'en ressors l'esprit malmené, bousculé, comme ces linges qu'on essore. La lecture a de ses violences, car je ne peux esquiver le parallèle qui se forme en moi, la lecture a de ses retours, le parallèle entre le meurtre légal de Franza par son époux et le climat où je grandis, entre 2 parents désassortis, dont la sourde hostilité et le désir de se faire mal étaient tels, que bien que le mobile de leur aversion m'échappât, je conçus une méfiance définitive devant tous les rapports conjugaux quels qu'ils fussent, et l'habitude de m'évader en moi-même pour fuir leurs dissensions, ce dont aujourd'hui je leur sais gré. Ingeborg Bachmann se pencha sur cette dimension banale et effrayante du mariage, comme aucun homme, je crois, n'eût pu le faire, comme le fit plus tard Elfriede Jelinek qui l'admirait. Ingeborg Bachmann, dont Thomas Bernhardt avait dit « Elle avait, comme moi, trouvé très tôt déjà l'entrée de l'enfer, et elle était entrée dans cet enfer au risque de s'y perdre prématurément. » Ingeborg Bachmann s'y perdit prématurément, elle qui avait écrit dans une sorte de prémonition reprenant un vers de Tselan « Mes cheveux ne blanchiront pas. » Un soir, écrasée de somnifères, elle n'éteindra pas sa cigarette avant de s'endormir. Après plusieurs jours d'agonie, elle mourra des suites de ses brûlures le 17 octobre 1973 dans une clinique romaine. Mais son nom demeure, et notre fidélité à lui, son nom si beau où toute son œuvre, depuis, s'est recueillie.
C'était « 7 femmes » de Lydie Salver. 5e et dernier épisode, Ingeborg Bachmann. Texte dit par Lydie Salver. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Assistance technique et montage, Jean du Cimetière. Prise de son et mixage, Pierre Mine. Assistante à la réalisation, Clémence Grosse. Réalisation, Étienne Vallès. Cette femme de Lydie Salver est publiée aux éditions Perrin.
Pour la radio, le choix des extraits de Cette femme de Lydie Salver a été fait par Nadine Egels.
C'était un été d'écrivains, des entretiens, des lectures, des auteurs français, des auteurs étrangers. Toute cette semaine, Lydie Salver. Vous pouvez réécouter, télécharger sur franceculture.fr cette émission, ainsi que toute la série d'un été d'écrivains. La semaine prochaine, avec un été d'écrivains, nous irons à la rencontre de Olivier Rollin.